Le livre que je souhaiterais vous présenter a été écrit donc par Romain Gratiani, qui est philosophe et professeur en études chinoises à l'ENS de Lyon. Il a pour titre « L'usage du vide » et pour sous-titre « Essai sur l'intelligence de l'action de l'Europe à la Chine ». Il a été publié par les éditions Gallimard en 2019. Alors, pour introduire son propos, je vais rapporter une histoire qu'on trouve dans l'ouvrage, et une histoire qui est même racontée dans le « Lié de ceux », qui est un ouvrage de l'Antiquité chinoise, un ouvrage taoïste. Voici l'histoire. Il faut que j'enlève mes lunettes. Parmi les habitants du littoral, il y avait un homme qui adorait les goélands. Tous les matins, il venait sur le rivage suivre les oiseaux qui s'ébattaient librement. Les goélands affluaient ainsi à lui, à tire-d'aile, par centaines, et se tenaient incessamment à son entour. Son père lui dit « J'ai appris que les goélands te suivent sur la plage et jouent avec toi. Attrape-m'en quelques-uns et apporte-les, que moi aussi je m'amuse. » Le lendemain, le fils retourna sur le rivage. Les goélands se mirent à danser comme d'accoutumée, mais cette fois sans descendre vers lui. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Si on va à l'essentiel, on dirait que ce que cet homme obtenait sans le vouloir, à savoir que les goélands viennent à lui, lui échappe dès lors qu'il l'aborde avec l'intention de le posséder. Et c'est là, illustre bien ce qui intéresse Gratiani dans cet ouvrage. En effet, ce qui occupe l'auteur, c'est un certain paradoxe, celui de ces états qui sont hautement désirables, qu'il appelle des états optimaux, et qui non seulement ne s'obtiennent pas volontairement, mais même sont réfractaires à la volonté. Ainsi, par exemple, on ne peut produire en soi ou hors de soi, chez les autres, la détente, l'aisance, la grâce du mouvement, la sérénité de l'esprit ou la gaieté par un acte de notre volonté, par une contention de notre attention, par l'intensification d'un effort. On sait bien que l'injonction « détendez-vous » a quelque chose d'absurde, car on ne décide pas vraiment d'être tendu ou détendu. Mais ce qui est le pire, et ce à quoi la pensée chinoise s'est intéressée de longue date, selon Gratiani, c'est que les efforts même que l'on déploie pour atteindre de tels états, la grâce, l'aisance, la détente, ces efforts même, donc, sont ceux qui empêchent absolument de les connaître. Ce que Gratiani schématise de la façon suivante, il écrit « La représentation d'un état A, la détente, tend à causer un désir B, le désir de l'avoir, et une action C, alors même que C, l'action, sous l'influence de B, le désir, tend à détruire A. » Nous sommes donc devant le paradoxe d'états qui sont désirables, que nous pouvons donc manquer de vouloir atteindre, mais qui sont rendus impossibles par cette volonté même. Pour le dire autrement, on ne peut pas ne pas vouloir être heureux, mais on est heureux que si on cesse de le vouloir. Un exemple qu'il fera bien comprendre et sur lequel s'arrête l'auteur est celui du sommeil, état réparateur et désirable. Tout le monde a pu remarquer qu'on ne s'endormait pas à volonté. Le sommeil vient de lui-même, pour ainsi dire. On ne se dit pas « tiens, je veux dormir » et pouf, on dort. Mais toute personne qui a connu l'insomnie sait aussi que si l'on veut dormir, si c'est avec ce dessein en tête que l'on se couche, alors le sommeil nous fuit. Il faut donc cesser de vouloir dormir, d'une façon ou d'une autre, pour que le sommeil nous gagne. Raison pour laquelle, dès notre plus jeune âge, on nous a appris à penser à autre chose qu'à dormir pour s'endormir. L'enfant n'arrive pas à dormir, on lui dit toujours, on lui dit pas, il faut que tu le veuilles vraiment très fort, sinon tu n'y arriveras pas. Alors justement, cet état de fait qui concerne justement certains états désirables, et même les plus désirables, heurte, dit Gratiani, la conception dominante de la réussite de l'action que nous avons en Occident et qui relève de ce qu'il appelle une éthique musculaire. En effet, nous pensons ordinairement que pour réussir quelque chose, il faut le vouloir et, comme on dit, s'en donner les moyens. Si nous échouons, cela tient, si ce n'est pas au hasard, des circonstances extérieures, cela tient à nous, cela tient plus précisément à un défaut de connaissance qui nous a conduit à employer des moyens inadéquats, inefficaces, ou à une faiblesse de notre volonté. On ne l'a pas assez voulu. Il faut donc recommencer, vouloir encore et davantage, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, et ou établir plus judicieusement son plan d'action, afin que cette fois-ci nous touchions au but. Or, ces états optimaux, grâce, aisance, gaieté, sont hors d'atteinte tant que nous sommes tendus vers eux. Tant que nous élaborons une stratégie et concevons les moyens pour les réaliser. Eh bien, dit-on, il suffit de ne pas les vouloir. Puisqu'on échoue à les obtenir en les voulant, eh bien, il suffirait de ne pas les vouloir. Mais on aperçoit immédiatement la difficulté. Comment pourrait-on, sans contradiction, vouloir ne pas vouloir? Comment pourrait-on entrer dans le projet de ne pas vouloir quelque chose? L'insomniaque qui veut ne pas vouloir dormir ne trouve pas plus le sommeil que celui qui veut dormir. C'est-à-dire, si vous êtes insomniaque et vous dites « il ne faut pas que je veuille dormir », vous ne dormez pas davantage que si vous dites « il faut que je dorme ». Ne pas vouloir quelque chose n'équivaut pas à vouloir la négation de cette chose, souligne Graziani. Cesser de vouloir être détendu, puisqu'on n'y arrivera pas tant qu'on le voudra, cela ne revient pas à vouloir ne pas être tendu. Or, c'est l'erreur que nous commettons souvent. Nous croyons que pour être détendu, il faudrait que... Alors, nous avons bien compris que ce n'était pas en voulant être détendu qu'on est détendu, mais nous croyons parfois que c'est en voulant ne pas être tendu qu'on est détendu. Mais ça ne marche pas davantage. Pour que ces états optimaux réfractaires au vouloir, comme ils les appellent, adviennent, il faut à la fois cesser de les vouloir et de vouloir leur négation. Il faut atteindre un état de non-vouloir. C'est du moins ce que la pensée chinoise, taoïste en particulier, recommande. Mais comment atteindre un état de non-vouloir si ce n'est fortuitement? Peut-il être provoqué? Et n'est-ce pas contradictoire alors avec la nature même de cet état? Non, ce serait vouloir un état de non-vouloir. Et si malgré tout on peut le susciter en soi, comment faut-il s'y prendre? Voilà au moins 3 questions qui sont abordées dans l'ouvrage. Alors un tel état de non-vouloir est abondamment décrit dans la littérature taoïste et en particulier dans le Chuang-Tzu. Il prend l'allure d'une sorte d'oubli, d'un abandon qui confine parfois à l'hébétude, à la confusion pour les personnages qui auraient atteint tel état de non-vouloir, parfois même une sorte de bêtise. C'est bien la description extérieure. Alors j'ai le temps de vous relire une anecdote. Elle se trouve donc dans le Chuang-Tzu et elle concerne un percepteur appelé prodigue du palais du Nord, chargé par son seigneur de lever des fonds pour la confection d'un ensemble de cloches rituelles et qui réussit dans cette entreprise au-delà de toute attente. Voici l'anecdote. Alors, interrogé sur la méthode employée pour collecter une telle somme en un temps record, le percepteur livre cette réponse. « Tout uni que j'étais dans ma tâche, je ne me suis risqué à aucun procédé particulier. C'est que j'ai un jour entendu dire « Toi que voilà sculpté et orné, fais retour à l'état de bloc brut, indivis. Candide et sans conscience, confus et dissolu, rassemblé dans l'hébétude, j'accompagnais ceux qui s'en allaient, venais à la rencontre d'autres qui survenaient, sans retenir ni interdire. Je me conformais aux fortes têtes et aux impétueux, sinué avec les retors et les roublards, en me fondant sur les ressources de chacun. C'est ainsi que, du matin au soir, je fis ma collecte sans essuyer une seule rebuffade. Imaginez ce qu'il doit en être pour celui qui chemine sur la grande voie, c'est-à-dire le Tao. Bon. ce que décrit cette espèce d'état de non-vouloir. Il n'a pas abordé les gens à qui il devait soutirer l'impôt en leur disant je veux l'impôt, donnez-moi. Il n'avait pas de plan, il n'use pas de moyens en particulier. Au contraire, il se place dans une sorte d'état de non-vouloir, d'hébétude. On a l'impression qu'il va de ci, de là, suivant comme les gens sont. S'adaptant à eux, ne pensant à rien, ne leur demandant rien, ne recourant ni à la menace, ni à la coercition, ni à la persuasion, ni à quoi que ce soit. Et c'est ainsi qu'il réussit à collecter la somme, raconte le Chuang-tzu. C'était un... On n'en sait pas grand-chose, décrit comme cela. Ça paraît tout à fait mystérieux. Ça le reste d'ailleurs. Toutefois, cet état de non-vouloir, qui est aussi qualifié de vide, de non-agir, ce n'est pas un état d'absence de volonté. C'est ce qui fait la difficulté. C'est pas qu'on veut absolument rien. Ce n'est pas une annihilation de la volonté. C'est plutôt un état de vouloir flottant, qui n'est accroché à aucun but extérieur, au service d'aucun dessein déterminé. Comme le dit un penseur taoïste, Han Fei, le vide ne signifie qu'une chose, que la volonté n'est gouvernée par rien. Sous-entendu par rien d'extérieur. Donc elle est à elle-même et pour elle-même, simple force motrice de l'action, principe intérieur du geste efficace, sans projection vers le but à atteindre, et tout ce qui s'y attache d'espoir et de crainte. D'après ce que nous avons dit, on ne peut manquer de conclure qu'on est impuissant par définition à provoquer en soi un tel état, un état de non-vouloir, et qu'il est même néfaste de le vouloir, c'est-à-dire à force de le vouloir, on ne pourrait pas l'atteindre. Mais Graziani nous invite à dépasser l'opposition entre vouloir et non-vouloir. Il nous faut plutôt penser, selon lui, des modalités et des intensités de la volonté, des changements de degré dans la volonté qui équivalent presque à des changements de nature. En effet, la volonté n'est pas seulement une tension vers un but maintenu devant soi. C'est là sa figure première, disons. C'est comme cela qu'on l'entendait d'abord. Je veux à toute force. Cette espèce de force, oui, tendue vers un but maintenu devant soi. Elle peut être aussi une capacité de se détourner de l'impulsion à agir sur le monde extérieur. Elle peut être une force qui initie le mouvement par lequel nous déjouons la fascination qu'exercent sur nous des représentations, nous relâchons l'emprise qu'ont sur nous des désirs, nous congédions l'urgence sociale d'agir, par lequel donc nous finissons par nous disposer au non-vouloir. La volonté au principe du non-vouloir, une certaine volonté. C'est par un détour et une diversion que s'atteint l'état de non-vouloir. Il ne s'atteint pas en le voulant comme un but, mais toujours par un détour. Cet état de non-vouloir qui seul rend possible les états optimaux que nous cherchons à atteindre. Il s'agit de quitter le but des yeux en se livrant à une ascèse, un jeûne de l'esprit, qui cultive l'oubli du monde, l'inaction, et par là même la fertilité des ressources intérieures. Il s'agit notamment de trouver la temporalité propre à l'action. Je veux dire aussi bien la quantité du temps qui lui convient que la qualité de ce temps qui lui convient. Et ça ne peut être que quelque chose d'intérieur. À cet égard, peut-être une autre anecdote tirée du Chuang-tzu. Elle concerne un charpentier. Le charpentier Tsing, qui avait taillé dans le bois un support pour des cloches rituelles. À la vue de l'ouvrage achevé, les gens étaient frappés de stupeur, comme si c'était l'œuvre d'un dieu. Le seigneur de Lou le regarda à son tour et interrogea le charpentier. « Par quel art êtes-vous arrivé à cela ?» L'autre lui répondit « Votre serviteur n'est qu'un humble ouvrier, quel art pourrait-il bien posséder ?» Mais il y a tout de même une chose. Lorsque je m'apprêtais à fabriquer ce support, je ne me suis pas risqué à dépenser en vain mon énergie. Il m'a fallu jeûner afin de tranquilliser mon esprit. Après 3 jours de jeûne, je n'osais plus songer aux compliments, aux récompenses, aux titres ou aux émoluments que j'en pourrais tirer. Au 5e jour, je ne m'aventurais plus à des considérations de blâme ou d'éloge, d'habileté ou de maladresse. Au 7e jour, je perdis d'un coup conscience de mon anatomie et de tout mon corps. À ce moment-là, votre seigneurie et sa cour avaient cessé d'exister. Mon adresse s'était concentrée et finit par éclipser toutes les nuisances du dehors. C'est alors que j'entrai dans les forêts en montagne et me mis à contempler la nature même des arbres. Quand la forme et le fût d'un arbre m'apparurent parfaits, la vision se forma du support à fabriquer. Cet instant seulement que j'y appliquai ma main. Si les choses ne marchent pas ainsi, ça ne peut pas prendre. En somme, je ne fais qu'accorder le naturel au naturel. De là sans doute que les gens se demandent s'il s'agit d'une œuvre d'un dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'a fait le charpentier Tsing, c'est certainement pas. Enfin, il ne s'est pas projeté vers le but. Et il n'est pas allé dans la forêt. Il n'a pas repéré les arbres, en tout cas pas tout de suite. Et il n'a pas mis en ordre ses outils. Il n'a pas fait des plans. Il n'a pas fait des dessins. Il a jeûné. Il a fait tout pour oublier la commande qu'on venait de lui passer. Et pour oublier tout ce qui s'attachait à ça. Et notamment l'espoir de récompense, la crainte du blâme, etc. Jusqu'à oublier même le cadre même obligé de ce travail, car c'est un serviteur. Et c'est quand il a eu, en quelque sorte, oublié tout ça, et qu'il s'était concentré sur ses propres forces, qu'il a pu, et seulement à ce moment-là, trouver le fût d'arbre qui lui convenait, la forme du support, et qu'il l'a produit. Une telle discipline consiste, selon Gradiani, à se tourner vers des forces qui ne sont pas sous le contrôle de la conscience et de la volonté, volonté conçue comme cause productrice d'un mouvement, à savoir les forces du corps, qui ont une capacité d'organisation et une efficacité immanente. Cette discipline est une sorte de rééducation posturale. Ce qu'elle vise, ce n'est pas la réussite de l'action en elle-même, mais une réforme intérieure. La réussite de l'action viendra par surcroît, un peu comme Lacan, ça c'est moi, c'est pas lui. Lacan dit la guérison, enfin, pour ce qui concerne, comme Lacan le dit de la guérison dans la psychanalyse, la guérison c'est par surcroît. Si on aborde une psychanalyse pour guérir, quoi que ce soit que ça puisse vouloir dire d'ailleurs dans ce cadre-là, alors ça ne marchera jamais. C'est pas pour ça qu'il faut y aller. Au terme de ce parcours, et pour conclure, l'auteur conclut lui-même que le paradoxe initial que posent les états optimaux réfractaires à la volonté n'en est plus un quand on est parvenu à distinguer deux régimes, deux modalités de la volonté. Ces états, aisance, légèreté, enfin grâce dans le mouvement, etc., ces états ne peuvent être atteints par une volonté planifiée et planifiante, tendue vers son but. Ils nécessitent un détour, un abandon même du schéma d'action volontaire qui articule des moyens à une fin désirée. Mais la volonté, ça ne veut pas dire que la volonté n'a aucun rôle, car elle peut être à l'initiative de ce détour selon une autre modalité que celle de la tension vers le but. Elle se fait alors une capacité négative, dit Gradiani. Capacité négative d'abord d'inhiber l'impulsion à agir en vue d'un but, comme l'a fait le charpentier Tsing. Il a usé d'une certaine volonté, mais pour jeûner, c'est-à-dire pour jeûner et pour s'empêcher d'agir en vue du but, de penser à tout ce qui était autour, de planifier son action. Donc, capacité négative d'inhiber l'impulsion à agir en vue d'un but pour se concentrer sur les ressources intérieures de l'action. Elle donne l'élan initial à la formation d'une disposition qui se gagne progressivement par la discipline et elle s'oublie en se réalisant. La volonté, impulsion initiale, s'oublie en se réalisant. C'est ainsi que l'état de non-vouloir a bien initialement... peut être atteint initialement par une sorte d'impulsion volontaire, une intention, mais qui s'oublie à mesure qu'elle se réalise. L'état de non-vouloir, écrit Gradiani, est l'effet anticipé, mais non planifié, d'un processus de transformation qui procède par gradation subtile. Quelles que soient les techniques et les pratiques adoptées, à cet égard, Gradiani est très large, enfin il ne préconise pas, d'ailleurs... Le taoïsme préconise assez peu de techniques, à vrai dire, ou des techniques diverses, mais souvent assez... Vous comprendrez bien pourquoi, ce n'est pas des livres de recettes. parce que si c'était des livres de recettes, on retomberait dans le schéma de l'application d'une recette, etc. Bon, ce sont des livres où ce qui peut t'aider n'est toujours que suggéré. De même que dans la bouche des maîtres, quand ils sont interrogés par leurs disciples, jamais ils ne répondent aux questions, aux impatientes des disciples qui veulent atteindre le but. Enfin, du moins, ils n'y répondent pas à la manière dont quelqu'un qui s'y connaît en quelque chose, dans l'ordre technique, répond quand on lui pose une question. Comment faire pour, je sais pas quoi, monter un meuble, etc. Tout cela a des... Mais il en est autre chose de la sagesse, ou de l'état de non-vouloir, ou de du non-agir, suivant comment on voudrait le dire. Ça ne s'atteint pas comme cela. Quelles que soient les techniques et les pratiques adoptées, disais-je, c'est une perspective, je crois, qu'il est salutaire de conserver à l'esprit quand nous faisons face à des échecs. L'éthique viriliste de la volonté, le mot est de Gratiani, les stratégies techniciennes de la réussite ont leurs limites. D'ailleurs, ils ne les critiquent pas en elles-mêmes, mais simplement elles ont leurs limites. Et il est bon de savoir s'en détourner complètement pour que viennent à notre rencontre des états heureux dont ne dépendent ni la possession des choses, ni la transformation du monde.